بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Chers en islam, nous complétons ce soir inshallah Abasa wa Tawalla. Et dans les précédentes leçons, dans les précédents programmes, on avait vu qu'à maintes et maintes reprises, Allah Azza wa Jal interpellait l'être humain, Allah Rabbul Izza, interpellait ses serviteurs et les rappelait et les ramenait vers la réflexion pour réaliser le lien de Uboudiya, le lien qui, on va dire, qui unit la créature avec son créateur. Le rappel pour que le makhlouq se rappelle qu'il a un khaliq et qu'il a un rendez-vous auprès de son khaliq, de son créateur, et qu'il a donc des devoirs envers son créateur. Et on avait vu au cours des différents durus dans surat Abasa wa Tawalla que au milieu du verset, Allah Rabbul Izza rappelle à l'homme d'où il vient, hein, qu'il a été créé d'une goutte de sperme. Ensuite, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme son parcours sur ce dunya. Ensuite, très rapidement, Allah Rabbul Izza rappelle à l'être humain la situation de la tombe. Ensuite, Allah Rabbul Izza rappelle à l'homme qu'il y a l'étape du mahshar. Thumma idha sha'a anshara. Donc, ces différents rappels, l'objectif, c'est que l'être humain réfléchisse. C'est qu'on arrive à réfléchir. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il ne faut pas être spectateur de la vie. Il faut être capable d'analyser chaque étape que nous enchaînons et réaliser que ces étapes-là, ce sont les étapes qu'Allah Azza wa Jal a prévues pour chaque créature. Mais que même si, ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser dépasser par les émotions, par les sentiments et par l'attachement avec les biens de ce monde. Il y a des fois où on va réussir dans la vie. On va avoir des choses que nous souhaitons, que nous souhaitions, et parfois plus. On va gagner de l'argent, on va se marier, on va avoir une maison. Des choses qui remplissent le cœur de joie. Mais ces événements positifs, hein, alhamdoulilah, ce sont des faits qui remplissent le cœur de joie. Mais ça ne doit pas nous faire oublier la prochaine étape. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme qu'il a été créé d'une goutte de sperme, ensuite comment il est venu sur ce monde, immédiatement après, Allah Rabbul Izza enchaîne avec « Thumma amatahu fa aqbarahu ». Juste après, il y a l'étape de la mort et l'étape de la tombe. De la même façon, si nous arrive des événements attristants, ça peut être un décès, ça peut être la perte des biens, ça peut être un problème sur le plan familial, santé ou autre chose, ces événements ne doivent pas non plus nous faire perdre le nord, ne doivent pas non plus nous faire perdre l'objectif principal. Certes, l'homme est sensible à ces variations entre moments de joie et tristesse. C'est ça le dunya. Le dunya, on ne peut pas être tout le temps joyeux, ni tout le temps triste. Il y a des moments où on est content, il y a des moments où on est un peu moins content, on est un peu triste. Mais le vrai croyant, c'est celui qui pense toujours à Allah, fis-sarra et wad-dharra. Dans les moments de joie, on pense à Allah. Dans les moments de difficulté, on pense à Allah. On ne se laisse pas dérouter par les événements de la vie. Parce que ces événements de la vie, là, c'est comme des flashs qui vont s'enchaîner. Une seconde, ça va passer. Ce moment de bonheur, c'est quoi? C'est 5 secondes. Ce moment de difficulté, c'est quelques secondes. Ensuite, vous passez à autre chose. Mais il y a l'étape la plus importante, c'est la délivrance, qui est la mort. C'est pour ça que un des plus beaux hadiths, enfin, je ne peux pas dire que c'est le plus beau, mais c'est une impression, hein, un des hadiths qui me parle le plus, c'est lorsque le prophète Ali salatu wassalam dit « Ajabun li amri al-mu'min » Incroyable la situation du croyant. Lorsqu'Allah Azza wa Jal l'éprouve, « Fasabara fakana khayra Allah » et il fait preuve de patience de la difficulté. Tu vis une période difficile de ta vie, tu es patient, et il y a une récompense pour toi parce que tu as été patient face à l'épreuve. Et lorsqu'Allah va combler cette personne de bienfaits, « Shakara فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Il va se montrer reconnaissant vers Allah, et là aussi il y a un bien pour lui parce qu'il a été reconnaissant. C'est une preuve d'acceptation du taqdir bien sûr, et de gratitude envers notre Seigneur. Dans les deux cas de figure, le croyant se doit de se retourner vers Allah Azza wa Jal. Donc, les étapes et les événements de la vie ne doivent jamais nous faire oublier « ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ » et qu'ensuite, comment ils traduisent de façon précise, parce que nous on explique, mais le terme est plus proche. « Puis, alors regardez, hein, puis, non, d'une goutte de sperme, il le crée, ça c'est la création de l'homme, et détermine son destin, tout ce qui va lui arriver dans ce dunya. » Mais ça va passer très vite parce que les mots s'enchaînent. ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر. Puis il lui donne, c'est-à-dire Allah lui donne la mort et le met au tombeau. Immédiatement après, on enchaîne l'étape de la mort, l'étape de la vie sous la tombe, dans la tombe sous terre, je veux dire. ثم إذا شاء أنشر. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Mais dans chacune de ces étapes, que ce soit la vie et le déroulement des événements de la vie qui fait partie du taqdir, comme Allah Rabbul Izzah rappelle, il le crée, détermine son destin, que ce soit l'étape de la mort, ثُمَّ أَمَاتَهُ, que ce soit l'étape de la tombe, فَأَقْبَرَهُ, l'étape de l'au-delà, ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Dans toutes ces étapes, l'homme a besoin d'Allah Azza wa Jal. L'homme a besoin de se retourner vers Allah Rabbul Izzah. Et ensuite, on va essayer d'enchaîner, à partir du verset 23, il y a encore un rappel. On appelle l'homme à réfléchir, à méditer, à s'arrêter un petit peu. Comme on a dit, ne pas se laisser emporter par les événements de la vie. Mais à un moment donné, on doit être capable de s'arrêter et de regarder, se retourner, voir qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est quoi mon parcours jusqu'à maintenant? Et ensuite, je regarde devant, combien de temps il me reste? Et là, on prend conscience qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. On sait combien de temps c'est passé, ça c'est clair. Si j'ai 25 ans, je sais que j'ai déjà vécu combien d'années. Mais combien il reste, on réalise que Allah seul le sait. Mais je sais que ce qui est sûr, khabar yaqin, c'est que l'étape suivante, c'est amatahu. C'est la mort, c'est le retour auprès d'Allah. Donc réfléchir à ces étapes. Maintenant, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme autre chose qui est, on va dire, plus terre à terre. Là, c'est une réflexion sur la relation entre les mondes, entre le monde du réel, on peut appeler ça comme ça, et le monde de l'invisible, avec l'étape de la mort, de la tombe et de la résurrection. Maintenant, il y a une réflexion vers quelque chose qui est plus terre à terre, qui est plus simple, on va dire plus accessible. C'est quand Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme, demande à l'homme de réfléchir sur ce qu'il mange, de quoi il se nourrit. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Jusqu'à le verset 32, que l'homme se souvienne, que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains et ainsi de suite. Et tout ce qu'on avait expliqué la dernière fois rappelle que ce que nous mangeons, bi'idhnillah, cette nourriture elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous permet d'avoir cette nourriture ainsi que pour le bétail, donc parmi les points qui sont cités dans le verset, parce qu'Allah Rabbul Izza a organisé la création, sunnatullah, comme Allah a organisé les choses. Et on a vu la relation qu'il y a entre la terre et l'eau. S'il manque un des deux éléments, on ne peut rien manger, ni espèce végétale, ni espèce animale. Si vous n'avez pas une terre fertile, il n'y a rien qui pousse. S'il n'y a rien qui pousse, les animaux n'auront rien à manger, donc on n'aura ni fruits, ni légumes, ni viande pour manger. Et la relation avec l'eau, avec la pluie, s'il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas vivre, déshydrate, les animaux non plus, il n'y a rien qui pousse. Mais dites-moi, ou alors donnez-moi le nom, donnez-moi, je ne sais pas si quelqu'un a ce nom de l'Assemblée, donnez-moi le nom de la personne qui, sur cette terre, en 2014, peut faire tomber la pluie. Comment il s'appelle? C'est un Américain? C'est un Russe? C'est un Japonais? C'est un quoi? Aucune créature ne peut faire tomber une goutte de pluie. Tout comme aucune créature ne peut faire pousser un brin d'herbe, ni une pomme de terre, ni un oignon, ni un morceau d'ail ou de gingembre, de tomate, voilà, chay, sans passer par la terre. Si vous dites à un scientifique, les exemples qu'on a déjà cités pas mal de fois, voilà, essaye de créer une tomate tout de suite, là, juste avec une paire de gants, une table de travail, sans graines, sans rien du tout. On va dire que c'est impossible, c'est inhumain. Aucune créature ne peut créer quelque chose à partir de rien. On dit, ok, on passe à l'étape suivante. Ok, on te donne comment on appelle ça, les petites graines qu'on... Les semences. D'accord, on te donne les semences. Fais pousser, mais sans terre. Elle dit, mais c'est pas possible. Il faut un support. Ça doit être la terre, ça peut être un autre support végétal, mais autrement, c'est pas possible. Ou sans l'eau, c'est impossible. C'est-à-dire que ça, c'est la terre, l'eau, et comment les graines vont s'ouvrir, les racines, etc. Tout ça, c'est sunnatullah. C'est de cette façon qu'Allah a organisé sa création. L'homme doit réfléchir à tout ça. Vous voyez comment un musulman qui est sincère, qui est dévoué, qui est ouvert d'esprit, comment est-ce, et qui suit les ordres du Coran, comment il deviendra quelqu'un d'intelligent ? Il deviendra proche de l'un. Aujourd'hui, on fait tout un plat, tout un cinéma pour l'écologie. D'accord ? Mais c'est souvent très hypocrite. Bientôt, ils vont empêcher quoi ? Les sachets plastiques ? N'importe quoi. On va dans d'autres sens. Quand on a des usines qui polluent, des avions et des personnes qui se déplacent avec un avion pour lui, ainsi de suite, et puis on va l'empêcher de faire quelques sachets plastiques. Ou alors, c'est, pour moi, il n'y a aucune cohérence à tout ça. Mais dans le Coran, Allah Rabbul Izzah rappelle à l'homme, réfléchis comment est-ce que les plantes poussent. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec la terre, avec le ciel, avec la pluie, avec l'eau qui tombe. C'est-à-dire l'homme devient proche de la nature. L'homme réfléchit, il apprend à connaître ça. Il apprend à respecter l'organisation de la création d'Allah, mais il ne s'arrête pas là. Celui qui n'a pas la foi va dire, Dame nature a bien fait les choses. Nous on dit, Allah Azza wa Jal, c'est le Khaliq. Sa création elle est parfaite. Vous voyez, le mu'min, il n'a pas besoin d'un spectacle ahurissant pour réfléchir sur la création d'Allah. Vous n'avez pas besoin d'aller, je ne sais pas comment on appelle ça, les chutes d'eau du Niagara, ou des trucs impressionnants pour réaliser qu'Allah a créé tout ça. Regardez les moindres choses qui poussent de la terre, où on se rend déjà compte que, subhanallah, comment est-ce qu'Allah, Rabbul Izzah, fait à partir de quelque chose qui est inerte, prenez les semences, essayez de les bouger à tous les sens, écoutez, faites une échographie, il n'y a pas de vie, il n'y a rien dedans, c'est pas mangeable, personne ne peut en profiter. À partir de ça, il peut y avoir un arbre, pas un fruit, un arbre avec des fruits, et cet arbre va donner des fruits pendant 50 ans, 60 ans, toutes les saisons. Ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Donc cette réflexion, que l'homme réfléchisse à ce qui l'entoure et ce qu'il fait. Et là, quand on parle réflexion par rapport à la mort et la tombe, c'est une réflexion périodique sur des choses très profondes. Mais là, c'est une autre catégorie de réflexion, plus accessible, mais qui se répète. À chaque fois que tu manges, réfléchis d'où vient cette nourriture. Cela vient d'Allah. Sainte, nous tous disons, Rosi, Allah il donne bail. Oui, bien sûr. Le rizq vient d'Allah, entièrement d'accord. Mais elle va au-delà de ça. Oui, mais Allah te l'a donné, mais comment est-ce que ça a été créé? Comment ça vient jusqu'à ton assiette? Cet animal, ces légumes, ces fruits, il y a un créateur. Avec une même terre, vous avez un manguier qui pousse, vous avez un pied de litchi, un pied de longanie, vous avez telle chose, des légumes qui poussent, la même terre. C'est pas une terre qui a été paramétrée, longanie2015.com ou autre chose. C'est la même terre. C'est la même pluie qui fait pousser des plantes, des espèces, subhanallah, différentes, des fleurs, une beauté, subhanallah. Tout ça, c'est khalqullah. Et le musulman, il doit être intelligent. Il doit analyser et faire le lien avec Allah. Toujours faire le lien entre le dunya et l'akhirah. Pareil pour les a'mal salihah. Quand on parle souvent d'ihtisab, faites le lien entre la bonne action que là je suis en train d'accomplir, là, le majlis auquel j'assiste. Je dois avoir cet espoir de rétribution que le jour de Qiyamah, je vais être récompensé pour le majlis du, je ne sais pas quelle date, du 17 octobre 2014 à 20h40. Allah Rabbul Izzah a pris les anges en témoin que nos péchés sont pardonnés à partir de ce moment et qu'il nous accorde telle récompense. C'est-à-dire, nos cœurs doivent être remplis de joie quand on fait une bonne action parce qu'on a espoir de rétribution. De la même façon, quand on est face à un péché, d'accord, là mes amis m'invitent à boire ça, ce qui est haram. Je dois, au-delà de dire qu'il ne faut pas de mon ivoire, moi, ça va être un déshonneur pour la famille ou autre chose. Non, au-delà de ça, je dois intégrer le fait que si j'accomplis ce péché, qu'est-ce que je vais répondre à Allah le jour de Qiyamah? qu'Allah Rabbul Izzah va me poser cette question à tel moment où mon serviteur tu m'as désobéi en consommant ce qui est haram, qu'est-ce que je vais donner comme réponse? Ça, c'est un musulman intelligent. Parce qu'il sait faire la relation entre son quotidien et le retour auprès d'Allah. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Ça, c'est la véritable taqwa. La véritable taqwa, c'est cette personne qui, dans ce monde, en tant qu'être vivant, qui mange, qui boit, qui travaille, qui a une famille, qui s'amuse, qui se repose, et ainsi de suite, il garde toujours à l'esprit qu'il y a un retour auprès d'Allah. Et qui dit retour auprès d'Allah, dit hisab, compte à rendre sur chaque chose que j'ai fait. Et donc, après toutes ces pistes de réflexion sur l'origine de l'homme, sur son destin, sa vie, sur sa venue au monde et son passage au dunya, sur la mort, sur la tombe, après le rappel sur l'au-delà, après le rappel plus simple sur ce qu'on consomme, comment est-ce que on doit réaliser que tout ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal, il y a la mise en garde. Attention. Parce que, attention. Attention, il y a quelque chose, que vous réfléchissiez ou non, dans toutes les situations, il y a un sahra qui va intervenir un jour. Que vous n'y croyez, que vous y croyez ou non, que vous en prenez conscience ou non, que vous ayez réussi votre parcours de ce monde ou vous avez raté votre parcours de ce monde, quelle que soit la situation, pour toutes les makhlouqat, toutes les créations, toute la création d'Allah Azza wa Jal, il y aura fa'idha. Attention, parce que fa'idha ja'atissakha, là on est dans le verset 33, puis quand viendra le fracas. En commentaire, les mufassirin rahimahumullah explique que as-sakha ay as-sayhatul 'azima, hein, ce son qui sera terrifiant et qui va sonner la fin de ce dunya, ay an-nafkhu fis-sur, lorsqu'Allah Rabbul Izza ordonnera à Isra, non, à Isra fil alayhi salam, de souffler dans cette corne et toute créature perdra son âme. Et il ne restera plus rien. Il ne restera que Allah. Liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Ça c'est ce fameux as-sakha. Ça c'est la création d'Allah Azza wa Jal qui prend fin. Son organisation, elle est prévue qu'à un moment donné, il y a la destruction de toutes les makhlouqat. C'est ce qu'on appelle al-alamin. Quand il y a alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin c'est ay kullu ma siwa Allah. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, c'est makhlouq, c'est créature. Il restera le jour de Qiyamah que Allah Rabbul Izzah, que notre créateur. Fa'idha ja'at as-sakha, parce que attention, attention, puis quand viendra le fracas. Et là ensuite, on aime les kathir rahimahullah aussi qui donne une explication assez intéressante. اسم من أسماء يوم القيامة أي صيحة القيامة لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها. Il y avait un commentaire dans les livres d'Aqida concernant An-Nafkhu fi Sur. Il explique que les personnes qui sont encore vivantes de ce dunya, lorsque l'ange Israfil souffrira de la trompe, c'est-à-dire ce seront des gens bien ou des gens pas bien. Les pires des créations, de la création d'Allah. Ce seront les pires des êtres humains qui, après le décès, oui, de Isa alayhi salam, après qu'il n'y ait plus une personne qui dise Allah de ce dunya, lorsqu'il restera des gens qui seront guidés par le diable, qui retourneront vers l'adoration des idoles, ce sera les pires des êtres humains de ce dunya, et c'est sur eux qu'aura lieu Zalzalatu Sa'a, la fin du monde, le Qiyam. Dans un hadith, ça fait pas mal de temps que j'ai lu, j'ai plus ni la référence ni les termes, mais le ma'ana, c'était les gens lorsqu'ils vont entendre, ça va être un bruit qui va monter en puissance, et les gens vont mourir foudroyés par ce bruit qui est qualifié comme étant As-Sakha, et qu'Ibn Kathir, Rahimahullah, il commente, Ay, Sayhatul Qiyam, ce son terrible, hein, qui va marquer le Qiyama, parce que ça va, pourrait dire, faire exploser les tympans des gens qui l'entendent. Hada huwa an-nafkhu fis-sur. Donc, fa'idha ja'at as-sakha. Et ensuite, Allah Azza wa Jal explique qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a ce as-sakha. Ce sakha est valable pour le mu'min et le kafir. Pour toute créature d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit encore, celui qui croit, pour lui, ce sera une étape qui va le rapprocher encore plus d'Allah jusqu'à la délivrance qui sera le Jannah. Après la première délivrance. Quelle est la première délivrance? C'est le passage de ce dunya à la mort. Ça, c'est la première délivrance pour le croyant. La deuxième délivrance, ce sera le passage du monde de la tombe vers l'au-delà, mahshar, parce que l'étape de la tombe est une étape effrayante. Et la dernière délivrance, c'est le passage de la terre de mahshar avec ses étapes vers le jannah, vers le paradis qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour les pieux, pour les croyants. Allahumma ja'alna minhum. Donc ce sakha intervient pour ce croyant, mais il intervient également pour celui qui n'y croyait pas, celui qui adorait autre qu'Allah, celui qui n'adorait même pas un Dieu, qui croyait qu'il n'y a pas de Dieu, na'oudhu billah. Mais le jour de Qiyamah, fa'idha hum qiyamun yandurun. Là aussi, Sadan Majus avait expliqué les termes du Coran, Allahu Akbar, c'est comme des frappes chirurgicales, c'est ajib, c'est magnifique. Fa'idha hum, on montre vraiment que l'enchaînement, fa'idha hum qiyam yandurun. Les gens se lèvent. Et il voit. Mais qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que l'homme... Imaginez ce que l'homme peut bien voir lorsqu'il est ressuscité et qu'il voit la terre de la résurrection. La terre du mahshar avec toute la création d'Allah depuis le premier homme jusqu'au dernier. Tous les êtres humains qui sont là. Tous les djinns qui sont présents. Et les anges qui peu à peu descendent lorsque le ciel se fend et que les anges du premier ciel descendent, du second, du troisième jusqu'au septième ciel. Spectacle exceptionnel, magnifique pour le croyant, terrible pour le mécréant. Pourquoi terrible pour le mécréant? Pourquoi magnifique pour le croyant? Parce qu'il voit étape par étape la réalisation de la promesse d'Allah. Et il voit que c'est pour ça que j'ai fait salat pendant 75 ans de ma vie. C'est pour ça que j'ai jeûné pendant 75 ans de ma vie. C'est pour ça que je fais Hajj, je fais Umrah. C'est pour ça que je me levais tôt le matin pour faire Salatul Fajr. C'est pour ça que je lisais le Coran, je faisais Dhikrullah. C'est pour ça que j'adorais Allah. C'est pour ça que j'ai posé mon front 75 000 fois sur le sol durant mon existence. C'est pour que lorsque ce moment arrive, je fais partie des gens qui seront tranquilles, qui auront le cœur apaisé, qui ne seront pas effrayés. Donc c'est un moment, il y a des moments de stress, mais c'est des délivrances pour le croyant de voir ça. Pour le mécréant, ce sera quelque chose de terrible, parce que étape après étape, il va réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'il est perdu. C'est pour ça que certains vont demander à Allah, hein, on a déjà expliqué ça pas mal de fois, certains qui, lors de l'étape de la mahshar, de la résurrection avec le soleil, les difficultés, ils vont dire, « Oh Allah, aie pitié de nous, même s'il faut nous envoyer en enfer, mais que cette étape s'arrête. » Ils pensent que peut-être là-bas, ce sera autre chose, mais le akhira, c'est de mieux en mieux pour le mu'min. Et de pire en pire pour le kafir billah et pour le fasiq, le pécheur endurci, celui qui revient auprès d'Allah avec des péchés, des montagnes de péchés. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège de cette situation de mourir avec des péchés dans notre livret de compte. S'il y a un doua qui serait exaucé ce soir et qu'Allah est capable d'accepter, bien sûr, si on pourrait faire tawassul, on demande à Allah Rabbul Izza, on prend comme intercession cette assemblée. Ça, c'est quelque chose de mashrou, at-tawassul bil a'mal salihah. Quand l'action était faite avec sincérité, on demande, oh Allah, si je fais cette action pour toi, uniquement par amour pour toi, avec sincérité, accepte ma demande. On demande tawassul à Allah par le biais de ce majlis. Si on est sincère, si on est tous sincères, on est venu là pour Allah, par amour et par crainte d'Allah, qu'Allah Rabbul Izzak exauce ce doua, que quand on meurt, on n'a pas un péché avec nous. Allahumma amin. Que personne ne quitte ce dunya avec un péché de son livret de compte. Parce que mourir avec des péchés, mes chers frères, c'est une catastrophe. C'est un échec. Lorsque vos proches, lorsque votre fils vous pose dans la tombe, s'il savait que papa avait encore des péchés, il vous aurait gardé à la maison. Je dis ça comme ça. Parce que quand on enterre quelqu'un qui a encore des péchés, c'est un échec pour la personne. C'est quelque chose de terrible. Il y a encore la possibilité que le jour de Qiyam, Allah pardonne. Mais quel stress! Quelle angoisse! Parce que dans certaines sources, il est dit que le défunt voit ses péchés lorsqu'on lui donne le bain mortuaire. Ça, c'est des sources pas très fiables à 100%. Mais des sources plus fiables expliquent que le défunt voit ses actions dans la tombe. Maintenant, si les péchés sont toujours là, c'est quelque chose d'effrayant. On ne sait pas est-ce que le jour de Qiyam, Allah va pardonner ou non. Comme pour la salah, pour certaines personnes qui n'ont pas accompli leur salah, Incha'a'adzabahu, Incha'a'adzabahu, Incha'a'afarala. Soit Allah punit, soit Allah pardonne. Ça dépend. Allah pourrait pardonner à certaines personnes et sévir à d'autres en fonction du contexte. Et Allah seul le sait, il est le plus juste. C'est lui, Al-Adl, Al-Hakim, Al-Adl. Mais quitter ce dunya avec des péchés, mes chers frères, ça c'est la pire des choses. C'est ça qu'on doit demander ce doigt à chaque salah, oh Allah, que quand je meurs, que je meurs sans le moindre péché dans mon livret de compte. Sans que j'ai des dettes, sans que j'ai des gens qui aient quelque chose à me reprocher, sans que j'ai fait du tort aux gens, sans que j'ai blessé une personne, sans que j'ai vexé quelqu'un, sans que j'ai dit des paroles désobligeantes. Qu'une personne garde même un minimum, un atome de rancune contre moi, que j'ai offensé, j'ai blessé une personne. Il ne faut pas, pour ça, garder de bonnes relations avec les gens. On évite au maximum les dettes. Et on fait en sorte que notre relation avec Allah soit le mieux possible. Et ensuite, notre relation avec les gens soit de la meilleure façon possible, en commençant par les plus proches. Mon épouse, mes parents, mes enfants, mes familles proches, familles éloignées, mes voisins, et ainsi de suite. Le mu'min doit avoir toujours le cœur léger, le cœur tranquille. Que n'importe quand, on lui dit d'embarquer, il embarque. C'est comme cette personne qui est en liste d'attente. Vous devez prendre l'avion, vous dites vous êtes en waiting list. Mais il n'y a pas que vous, il y a 10 personnes en waiting list. Tout d'un coup, une place se libère, il vous dit si vous êtes prêt, rentrez dans l'avion. Il dit que ouais, mais il est prêt, mais ma valise est dans le coffre, la voiture là-bas. Et il doit avoir quelqu'un de la famille, il doit venir faire un salam, il doit récupérer un passeport, madame, il y a maintenant 10 minutes. Il dit bah, et si vous n'êtes pas prêt, ben restez là. Le camarade est prêt à où aller. Le mu'min doit être léger. Léger, métaphore de le sens où léger, allégé de péché. Allégé de péché, il sait qu'il a. C'est pour ça que quand le Prophète sallam dit que Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Qui aime rencontrer Allah? Celui qui est pressé de ce moment. Qui est pressé de rencontrer Allah? Qui est pressé de se retrouver devant Allah Azza wa Jal? C'est celui qui est sûr de lui. Tu es sûr de tes arrières. Tu es sûr de tes salats. Tu es sûr de tes saoums. Tu es sûr de tes obligations, de tes devoirs. Tu es sûr de tes membres. Tu connais que tu es assuré. Tes yeux, tu les as contrôlés. Du début jusqu'à la fin. Tes oreilles, tu les as contrôlées. Ta langue, tu l'as contrôlée. Ton cœur, tu l'as contrôlé. Ostentation, jalousie, mauvaise pensée, envie de faire du tort aux gens, ainsi de suite. Tu l'as contrôlé. Qui, à ce moment précis, peut se dire que je suis clean? Personne. Personne. Sauf le mu'min muttaqi. Je dois être ce mu'min muttaqi. Qui est léger, light, qui n'a rien sur la conscience et qui a une relation privilégiée et magnifique avec Allah Azza wa Jalla. Vous savez, mes chers frères, le chemin vers la piété est encore long. Personne ne doit être persuadé que je suis un bon musulman, je suis un bon croyant. Même si je suis, mashallah, régulier dans mes salats et tout, qui nous dit que nos salats là sont acceptés par Allah? Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, disait une parole magnifique mais effrayante, très décourageante. Quand on l'entend, on est cassé. Il dit que si je savais qu'Allah Azza wa Jal avait accepté un seul de mes prosternations, une prosternation, un sijda, je suis satisfait, je suis content. Omar ibn al-Khattab, qui est-il en termes d'ikhlas, en termes d'istiqama, en termes de taqwa? Allahu Akbar. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui, l'histoire que j'investis une fois, hein, je dois rechercher la source, quand il est commerçant, on lui ramène une pièce de tissu, on rend la marchandise, il pleure. Il dit, oh Abu Bakr, pour un objet rendu, tu pleures? Il dit que non, c'est pas ça qui me fait pleurer. Hier, tu étais satisfait de cette marchandise, aujourd'hui tu ne l'aimes plus, tu changes. Qui me dit qu'Allah aujourd'hui est content de moi et demain il n'est pas content de moi? Il n'est plus content d'Abu Bakr al-Siddiq. Ça c'est fikar, ça c'est sahaba. Autre récit à propos d'Abu Bakr, je n'ai pas la source non plus à vérifier. Il était rentré une fois dans la masjid, il s'est trompé de pied, rentré avec le pied gauche, il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit que dans ce moment-là, j'étais mukhalafa sunnah. J'allais à l'encontre de la sunnah. Si l'ange de la mort avait pris mon âme à ce moment, qu'est-ce que je deviens? Mourir dans une situation où je suis à l'encontre de la sunna. Abu Bakr al-Siddiq ne donnait pas trop de tafsir du Coran, de lui-même. Il a dit que si je me suis trompé, qui me protège jour de Qiyam? Qui me fera de l'ombre jour de Qiyam si je me suis trompé dans une des paroles, dans l'explication d'une des paroles d'Allah Azza wa Jal? Vous voyez comment il y a ce souci du akhira. Comment est-ce qu'ils sont celui qui vivent, Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, avec leur qualité, avec leur force de foi, de iman, de spiritualité. Ils avaient cette crainte quand ils vont retourner auprès d'Allah, comment ça va se passer? Est-ce qu'Allah sera satisfait de moi ou non? Et est-ce que moi, il m'est arrivé depuis ce matin, on est vendredi 17, est-ce que depuis ce matin jusqu'à 21h, est-ce qu'à un moment donné, je parle pour moi en premier, est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit que si je meurs aujourd'hui, vendredi 17, quelle est ma situation? Est-ce que je suis prêt? Si on me présente devant Allah, est-ce que je peux répondre? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Chers frères, il y a un travail de réflexion. La foi, l'engagement dans la religion, ce n'est pas uniquement les actions. C'est un cœur qui pense à Allah en permanence. Et le cœur qui pense à Allah, ce n'est pas uniquement... Quand on dit penser à Allah, ce n'est pas uniquement... Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. C'est penser au moment où on rencontrera Allah, Rabbul Izzah, que la présence d'Allah soit toujours dans notre cœur. Ça, c'est le signe du muttaqi. Le signe du muttaqi, c'est lorsqu'il est face à une bonne action et qu'il hésite, je le fais ou non. Il pense à Allah et dit que Allah Akbar, je vais le faire pour Dieu, pour mon Seigneur. Je le fais à cœur ouvert. Il a 5 euros en poche. On est le 27 du mois. C'est Dieu le 27 du mois. Quand il reste 2 jours pour le salaire, il veille à cela. Là, c'est. D'accord? Il y a quelqu'un de pauvre. Il demande, tu me l'es pour acheter à manger, j'ai rien. La main est lourde. Il dit, oui, mais j'ai plus grand chose aussi. Mais quand tu penses que ça, c'est pas pour lui, je fais, c'est pour Allah. Pour qu'Allah soit satisfait de moi, là je donne tout de suite pour Allah. Ihtisab. Ça, c'est qualité du mu'min. La pensée d'Allah en permanence. Quand je suis face au péché, quand on me dit, viens, on va là-bas, allons de cet endroit. Un samedi, un jeune, il parle avec un autre jeune, viens, on va s'amuser un petit peu à tel endroit. Je sais que c'est du haram, du début jusqu'à la fin. Mais j'ai envie, je ne veux pas décevoir mes amis. Je ne veux pas passer pour un loser. Ou comme les jeunes disent, pour un steak. Mais j'ai cette pensée d'Allah dans mon cœur. Mais s'il m'arrive quelque chose, Allah me posera la question. Je dis quoi? Ça, c'est qualité du mu'min. Une pensée d'Allah, Rabbul Izzah, en permanence dans le cœur. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si toi tu ne vois pas Allah, sache qu'Allah te voit. Prise de conscience qu'Allah me voit en permanence. الذي يراك حين تقوم. Allah te voit quand tu fais ton qiyam al-layl, quand tu te prosternes, وتقلبك في الساجدين. Allah il est السميع العليم, celui qui entend tout, celui qui connaît tout. Chers frères, on doit avoir le cœur connecté avec notre Seigneur en permanence. Qu'Allah nous pardonne le manquement. Allah Akbar. Parce que فإذا جاءت الصاخة, c'est terrible. Parce que là-haut, qu'est-ce qui est terrible? Ce qui est terrible, c'est que tous les liens humains n'existe plus dans l'au-delà. Quand je parle de lien humain, quand je vous parle d'un lien humain, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? L'homme a besoin de manger, de boire, de respirer. Ces trois choses-là, il n'y a plus d'importance au jour de Qiyam, parce qu'on devient immortel. Il n'y a plus de mort. Qu'est-ce qui vous vient encore à l'esprit quand on parle de ce qui est propre à l'homme? C'est l'amour pour ceux qui sont autour de nous. L'homme aime ses parents. L'homme aime ses enfants, frères et sœurs, son épouse si on est marié. D'accord? Ça c'est fitra, l'innéité. Il n'y a pas besoin de religion pour ça. Il n'y a pas besoin de religion pour aimer ses parents, ses enfants, sa femme et ainsi de suite. N'importe quel être humain est attaché. Ça aussi, il n'y a plus le jour de Qiyama. L'homme est dénaturé. Ajib, ça, hein? Le jour de Qiyama. L'homme est dénaturé. Il devient comme, là c'est moi qui rajoute, c'est pas hadith, hein? Il devient comme une bête. Il cherche juste à avoir ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut quitter tout ça. Il veut s'en sortir. Peu importe qui tombe, qui s'en sort. Nafsi, nafsi. Seule chose qui m'intéresse, c'est sauver ma peau. Et le verset explique clairement. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, wa ummihi wa abihi, de sa mère, de son père, wa sahibatihi wa banihi, de sa compagne et de ses enfants. Vous vous rendez compte qu'un jour, vous ne voudrez même plus voir votre papa ni votre maman. Même celui qui a perdu son père il y a 20-25 ans. Et son vœu le plus cher, ce serait de revoir un jour mon père, Yaoum. Ou celui qui a perdu sa femme. Son souhait le plus cher, c'est revoir mon épouse quelques heures. Revivre un peu le bonheur que j'ai connu durant notre jeunesse. Ou celui qui a perdu son fils. Pouvoir resserrer mon fils, mon enfant, contre mon cœur 10 minutes. Et je donnerai tout ce que je possède. Le jour de Qiyama, ils sont là. Mais c'est le dernier de tes soucis. Même s'ils vont en enfer, ça ne te fait rien. Hajib. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus d'attachement. Pourquoi ? Parce que ce que l'homme va vivre le jour de Qiyama, c'est le pire des traumatismes pour un makhlouq, pour un être vivant. C'est des situations chaotiques. C'est terrible. Parce que là, on parle de supplice de akhira. Et on parle d'éternité. C'est-à-dire deux notions qui n'existent pas dans le monde des vivants. Azab, ça n'existe pas ici. Quand on parle de azab, là-bas, c'est autre chose. Khouloud, éternité, il n'y a pas ici éternité. Éternité, c'est là-haut. Ahwal, difficulté, soleil, et ainsi de suite. Il n'y avait pas ici, c'est là-haut. Donc l'homme vit les pires des traumatismes qu'un makhlouq peut supporter. Et la seule chose que ce makhlouq aurait souhaité à ce moment, c'est disparaître. Disparaître. C'est pour ça que dans Amma et Tasa'aloun, on a déjà dit ça plusieurs fois. Le kafir aurait souhaité être poussière. Rien du tout. Parce que ça, c'est insoutenable. Insupportable. C'est pour ça que l'homme ne voudra même plus voir ça. Regardez le tertib, son frère. Sa maman, son papa, son épouse ou son époux, ses enfants, plus personne. Pourquoi ? Parce que li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Allah ! Ça veut dire quand son propre cas pour l'occuper ? C'est lorsque l'homme reçoit ses dawawin, ses livrets de compte, et que l'homme voit la liste de péchés qu'il a ramené avec lui le jour de Qiyam, il se dit, comment est-ce que je vais répondre à l'appel d'Allah ? Qu'est-ce que je vais dire à Allah quand ça va être mon tour à propos de ça ? Qu'est-ce qu'Allah va prendre comme décision me concernant ? Quand il va voir des gens qui étaient meilleurs que lui, n'accèdent pas au Jannah. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je vais dire ? Je ne vais pas me défendre. Qu'est-ce que je... Allah Akbar, quel argument j'ai pour Allah Azza wa Jal ? لِكُلِّ مِرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِينَ شَأْنُوا يُغْنِي. Situation humainement invivable. Mais qu'Allah donnera la possibilité à l'homme de vivre. Donc, en commentaire, on explique que les gens les plus proches, Ab, et ainsi de suite, أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. Les gens qui l'aiment le plus de ce dunya, de ce monde. يَفِرُّ مِنْ هَاُولَاءِ كُلُّهُمْ. Il va fuir de ces gens. Il ne voudra même pas rencontrer leur regard. Un des mufassir dit يَفِرُّ مِنْهُمْ لِأَلَّا يُطَالِبُوهُ. Pour qu'on ne lui demande pas. On ne lui demande pas des questions à propos des huquq, des droits. Que l'homme va craindre que sa femme lui demande quelque chose à propos de ses droits, de ses engagements, de ses devoirs, de ce dunya. Pareil par rapport à nos parents, que nos parents nous reprochent un manque dans nos relations, de nos mu'amala, de notre manière d'agir avec eux, et ainsi de suite. Ça, c'est un tafsir, on va dire, un peu plus approfondi. Ce qui est plus intéressant, c'est comme les kathir, rahimahullah, il explique ce verset. Wallahi, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Hadith Ikrama radiallahu anhu. Yalqa ar-rajul zawjatahu. L'homme, le jour de Qiyama, rencontre son épouse. On terminera avec ce hadith. On a 39 minutes. On s'arrête à 40 minutes. L'homme rencontrera son épouse. Fayaqulu laha. Il dira à sa femme. Ya hadihi. Ayyu ba'lin kuntu laki. Quel genre de mari j'étais de ce dunya. Elle va dire. Ni'mal ba'lu kunta. Tu étais quelqu'un de bien. Un bon mari. et tu donnais tout ce que tu pouvais. Fayaqulu laha, il demandera à sa femme, fa inni atlubu ilayki al-yawma hasanatan wahida, je te demande en ce jour un hasana, une bonne action. La'alli anju mimma, inshallah, peut-être qu'avec ça je vais être sauvé de ce qu'on est en train de voir, de ce qui est en train de se passer. Fataqulu lahu ma aysara ma talabta, ce que tu demandes c'est simple. Walakinni la utiqu an u'tika shay'a, mais je peux rien te donner. Atakhawwafu mithla alladhi takhaf, j'ai peur de la même chose qui te fait peur, j'angoisse pour la même chose qui te fait venir vers moi pour demander ça. Autant tu as peur de cette situation, autant moi aussi j'ai peur. Donc en ce jour, je ne peux rien pour toi. Suite du hadith. Je ne sais pas si c'est hadith ou si c'est mawkouf. Hein. C'est une citation de Ikrama. Il dit, l'homme ira ensuite voir son fils. Il va demander, oh mon fils, quel genre de papa j'étais. Tu étais quelqu'un de bien. En citant les vertus de son père. Ya bunay, inni, j'ai besoin. Ila mithqali dharrati min hasanatik. La'alli anju mimma tara. Oh mon fils, donne-moi un atome, un iota de bonne action. Peut-être qu'Allah me sauvera par le biais de ça. Et l'enfant va dire, Ya abati, oh mon père, avec respect, ce que tu demandes, c'est clair, c'est simple. Walakinni atakhawwafu mithla alladhi tatakhawwafu, fala astati'u an u'tika shay'a. J'ai peur en ce jour, comme toi tu as peur, moi aussi j'ai peur, je ne peux rien. Ibn Kathir, rahimahullah, dit à travers cette citation de Ikrama, on réalise que le jour de Qiyam, personne ne pourra aider son prochain. On vous dit un hadith authentique, sahih cette fois-ci. Annahu, à chaque fois que l'homme demandera à des gens d'intercéder, ils vont dire nafsi, nafsi, la as'aluhu al-yawma illa nafsi. L'homme ira voir des, comment il a dit ça, des ulul azm, des personnes qui peuvent demander shafa'a à Allah. Ils vont dire, aujourd'hui, je ne me préoccupe que de moi. La as'aluhu al-yawm, je ne demande à Allah rien d'autre que ma propre survie, ma propre protection. Ça, c'est quand les gens iront voir les Anbiya alayhim salam. Même Isa, hatta, inna Isa ibn Maryam yaqul. Voilà. Donc, quand il parle de ulul azm, donc c'est dans le sens des Anbiya. D'accord, pas des ulul amr, c'est des Anbiya. Les gens iront voir les prophètes, et même les prophètes vont dire qu'en ce jour, la seule chose qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. On ne peut rien demander à Allah à part notre propre protection. Hatta inna Isa ibn Maryam yaqul, la as'aluhu al-yawma illa nafsi, la as'aluhu Maryam allati waladatni. Isa va dire, je ne demande même pas intercession pour ma maman Maryam qui m'a donné vie, qui m'a enfanté, mais je demande à Allah la protection uniquement pour moi. Ibn Kathir rahimahullah illustre de façon magnifique ce verset pour que l'homme réalise que là-haut il n'y aura strictement personne, et là-haut toutes ces pistes de réflexion qu'on a vues, ça n'a plus d'intérêt. Là-haut ne réfléchit plus, c'est plus le moment de se rappeler qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quel est mon parcours, qu'est-ce qu'Allah m'a accordé comme bienfait, qu'est-ce qu'Allah attend de moi. Non, ça c'était maintenant, ça fallait réfléchir, c'était de ce dunya. Il n'y a plus réfléchir à un jour, je retourne auprès d'Allah, je meurs, il y aura la tombe, il y aura Zumaïda Anshara. Non, c'est fini ça. Ça y est. Ansharak. Ansharaka, khalas. Allah t'a ressuscité, tu es là maintenant. Donc tu es arrivé à la dernière étape des pistes de réflexion. Tout ce qu'il y a avant, khalas, c'est fini. Et il n'y a plus à réfléchir à comment est-ce qu'Allah m'accorde la subsistance. Tu es dans un endroit où on ne boit pas, on ne mange pas. Yani, ma fiche, il n'y a rien, aucune piste de réflexion. Parce que As-Sahra a déjà intervenu. Est déjà intervenu. Maintenant, tu n'as qu'à subir ou vivre hein, comme tu l'as vécu de ce dunya. C'est le retour, le juste retour des choses. Likulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni. Donc ça, on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Parce que c'est quand même des points assez importants à développer. Ah, mes chers frères, les points qu'on a vus ce soir, wallahi, qu'Allah Azza wa Jalla a la possibilité de les comprendre, de les intégrer et de les mettre en pratique. Si on peut mettre en pratique chaque point qu'on a cité, subhanallah, on va faire un pas, on va avancer vers Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Rabbul Izza remplisse nos cœurs d'ikhlas, de sincérité, d'envie d'avancer, et qu'Allah Azza wa Jalla enlève de notre cœur, de nos cœurs, tout ce qui est mauvais. tout ce qui est négatif, tout ce qui nous amène vers le péché, toute souillure, toute saleté, toute mauvaise pensée, toute envie de nuire à notre prochain, que dans notre cœur, qu'Allah nous donne un cœur qalbun salim, un cœur pur, un cœur propre, que dans notre cœur il n'y a que le désir d'obtenir le contentement d'Allah, la préparation pour le jour où nous allons rencontrer Allah Azza wa Jal. Et que quand on quitte ce dunya, ben qu'on le quitte sans le moindre péché dans notre livre de Coran. Tawfiq illa billah, qu'Allah nous accepte tous. Tawfiq illa billah, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alameen, jazakum allah khair.